Radio Prague, les informations.
La République tchèque renforcera le contingent de ses soldats en Afghanistan. Le Parti civique démocrate retire deux noms de la liste des candidats pour les élections municipales. La Chambre des députés se penche sur l'amendement à la loi sur la circulation routière. La République tchèque envisage de renforcer ses effectifs militaires en Afghanistan de 200 soldats au cours de l'année prochaine. Leur nombre devrait s'élever au total à 730 personnes. Cette information a été confirmée par le ministère tchèque de la Défense. Parmi les soldats tchèques en Afghanistan, il y aura très probablement une centaine de membres d'unités spéciales. Le projet d'Alexandre Vondra, qui est le ministre de la Défense, a déjà été critiqué par l'opposition. Le conseil régional du Parti civique démocrate ODS a retiré deux noms de la liste de ses candidats pour les élections municipales dans la ville de Kolyne, en Bohême centrale. Il s'agit de l'adjoint au maire Roman Pekarek et du maire de la ville de Kolyne, Jiří Buzek. Roman Pekarek est impliqué dans une affaire de corruption. Jiří Buzek, quant à lui, est soupçonné d'avoir été au courant de cette affaire. Et puis la police tchèque a accusé Vladimír Krejčíř, secrétaire de la mairie de la ville de Znojmo, d'abus de pouvoir. Quatre autres personnes sont accusées de corruption. Jeudi, la police a fait une perquisition à la mairie de Znojmo. Elle a confisqué certains documents et a ouvert une enquête sur cette affaire. Cinq personnes avaient été arrêtées, deux d'entre elles ont été libérées par la suite. Selon l'agence de presse CTK, quatre représentants des sociétés du bâtiment auraient suborné le secrétaire de la mairie qui leur aurait attribué des commandes de la municipalité. La police a refusé de préciser le montant de la somme touchée par le secrétaire. Huit nouveaux cas de personnes atteintes du virus VIH ont été enregistrés au mois d'août en République tchèque. Dans la même période, deux personnes sont décédées des suites du sida. Si en 2009, quelques 157 nouveaux cas de VIH ont été recensés depuis le début de cette année, 126 personnes ont été nouvellement infectées. Suite aux restrictions budgétaires prévues par le gouvernement, le ministère tchèque des Affaires étrangères a annoncé la réduction de ses effectifs. Quelques 90 employés du ministère devraient quitter leur poste à Prague au 31 décembre 2010. Ensuite, le ministère envisage de diminuer le personnel des missions diplomatiques à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères avait déjà annoncé la fermeture des ambassades tchèques au Congo, au Venezuela, au Kenya, au Yémen et au Costa Rica, ainsi que du consulat général de Bombay. Simplifier le système de permis de conduire à points et en même temps punir plus sévèrement des infractions graves au code de la route. Tel est l'objectif de l'amendement à la loi sur la circulation routière proposé par le Sénat et approuvé par le gouvernement. L'amendement en question a de fortes chances d'être adopté par la Chambre des députés où il vient de passer à la deuxième lecture. Le projet prévoit, entre autres, la fin de la tolérance zéro en matière de consommation d'alcool. Désormais, un taux d'alcool de 0,3 g par litre de sang ne serait pas puni par une perte de points. Obsèques ce vendredi à Prague du comédien, journaliste et ancien ministre de la Culture Martin Stepanek, décédé le 16 septembre dernier à l'âge de 63 ans. Le premier ministre tchèque Petr Nečas, la présidente de la Chambre des députés Miroslava Němcová ont assisté à la cérémonie. La météo, pour terminer, après une période de beaux jours, le temps va se dégrader en République tchèque. Alors que vendredi, les températures ont dépassé 20 degrés, samedi, elles tomberont à 14 degrés. Les nuages et la pluie seront au rendez-vous. Nous fêterons les Zlata en République tchèque. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková, la suite du programme avec Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Le budget de l'État 2011 à l'heure de l'austérité. L'université Masaryk de Brno a ouvert en grande pompe son nouveau campus. La réouverture de la villa du sculpteur František Bílek, villa qui abrite le musée de cet artiste. Basket féminin mondial, bonne entame de tournoi pour les Tchèques. Tels sont les thèmes de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque préparé pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Cette semaine, le cabinet de Petr Nečas a donné son aval au projet de budget de l'État 2011 qui traduit la volonté de la coalition gouvernementale qui se déclare comme un cabinet de responsabilité budgétaire d'être fidèle à sa réputation. L'heure en République tchèque est désormais à l'austérité, aux réductions, aux économies. Alena Gebertova.
135 milliards de couronnes, soit 27 milliards de moins que cette année. Tel est le montant du déficit des finances publiques proposé pour l'année prochaine par le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, qui prévoit une réduction considérable des dépenses.
Je suis très heureux que nous ayons réussi à présenter un budget de l'État avec un déficit de 135 millions de couronnes, ce qui représente 4,6% du PIB.
Les réductions envisagées nécessiteront d'importantes modifications qui toucheront une grande partie des Tchèques. Les allocations sociales, les allocations familiales, l'épargne logement sont les domaines qui seront principalement concernés. L'accent sera dorénavant mis sur une plus grande différenciation des conditions d'octroi de l'ensemble des allocations, y compris celles liées au chômage. La baisse des salaires des employés dans le secteur public de 10% est également prévue. Certaines catégories privilégiées en seront exclues, dont en premier lieu les travailleurs pédagogiques. Les policiers, les juges et les hauts fonctionnaires, eux, connaîtront aussi une baisse de leur salaire, mais moins importante quand même. Le projet de budget de l'État 2011 sera soumis à la Chambre des députés au plus tard d'ici au 30 septembre. Comme la coalition gouvernementale possède au Parlement une majorité confortable, on peut s'attendre à ce qu'il passe assez facilement. À en croire un récent sondage, les mesures d'austérité du gouvernement ne seraient soutenues que par un Tchèque sur cinq. N'empêche que les intentions de vote semblent encore aujourd'hui favoriser l'actuelle coalition gouvernementale de droite.
J'ai de l'université Masaryk de Brno a ouvert en grande pompe son nouveau campus dans le quartier de Bohunice, un des projets les plus ambitieux et les plus onéreux ces dernières années. Les détails avec Anna Kubishta.
24 millions avec salles d'études, de cours et de recherche pouvant accueillir 5000 étudiants et 1000 enseignants, un coût total de près de 5 millions de couronnes. La construction du tout nouveau campus de Brno Bohunice est un projet colossal, financé en partie par l'État, la municipalité, l'université Masaryk et par un prêt contracté auprès de la Banque européenne d'investissement. Un projet qui s'inspire des campus à l'anglo-saxonne et qui accueille 3 facultés, comme l'explique le recteur de l'université Masaryk, Petr Fiala.
Nous y avons installé la faculté de médecine, une grande partie de la faculté de biologie et la faculté d'éducation physique. C'est donc un complexe unique qui va sans aucun doute améliorer la qualité des études et de la recherche. Le campus en lui-même est achevé, mais bien sûr, tout ce qui l'entoure doit encore être complété. Grâce au fonds structurel européen, nous voulons y construire encore d'autres centres de recherche et nous préparons également des logements pour les étudiants.
Bibliothèques, salles de sport, restaurants universitaires viennent également compléter les salles de classe et les laboratoires. Avec ce campus, c'est toute une ville miniature qui a vu le jour dans ce nouveau quartier après des travaux qui ont duré en tout 7 ans, même si plusieurs bâtiments avaient déjà ouvert leurs portes au cours des dernières années. L'ensemble est également lié à l'hôpital universitaire de la ville de Brno. Pour le recteur de l'université Masaryk, ce campus à l'américaine permet ainsi de concentrer en un même endroit lieu d'enseignement et de recherche, de rationaliser les infrastructures et de permettre une meilleure coopération entre les différents UFR. L'ambition est de hisser l'université à un niveau supérieur, pouvant concurrencer d'autres établissements européens et de donner de meilleurs moyens aux étudiants-chercheurs. D'ailleurs, d'autres structures devraient encore voir le jour à l'avenir. Petr Fiala.
Nous avons commencé la construction d'un pavillon spécialisé dans la chimie lié au problème de l'environnement. Nous voulons également lancer la construction d'autres pavillons de biologie. Et nous attendons l'accord de Bruxelles pour un grand projet de la ville de Brno, la construction d'un grand institut technique d'Europe centrale dont la partie spécialisée en biochimie devrait être liée au campus.
Les premiers étudiants ont fait leur entrée universitaire dès lundi dernier et pour tous ceux qui veulent aller voir à quoi ressemble ce tout nouveau campus, une adresse, le www.muni.cz/campus avec un K.
La réouverture de la villa pragoise du sculpteur František Bílek braque les feux de l'actualité sur cet artiste visionnaire qui a su donner à son œuvre une signification symbolique. La maison que le sculpteur a fait construire non loin du château de Prague est une matérialisation de ses concepts spirituels et peut être considérée sans doute comme une de ses œuvres majeures. C'est au terme d'une rénovation complète que se sont rouvertes ce vendredi les portes de cette bâtisse qui frappe le passant par l'originalité et la noblesse de ses lignes et de sa conception. Atteint de daltonisme, František Bílek ne pouvait pas se consacrer à la peinture comme il l'aurait voulu, mais il a fini par s'imposer dans tous les autres arts plastiques. Né en 1872, l'artiste s'est illustré dans la sculpture, l'art graphique, les arts appliqués et même dans l'architecture. Son talent a réussi à fondre ses tendances spirituelles et sa profonde foi chrétienne avec le symbolisme et l'art nouveau pour donner un style inimitable. Ses statues monumentales, ses gravures et ses visions architecturales entr'ouvrent les portes du subconscient et reflètent le monde mystérieux de l'âme humaine. L'historien de l'art Jindřich Vybíral décèle les aspirations spirituelles de František Bílek aussi dans l'architecture de sa maison.
František Bílek a été un critique du monde moderne. Il critiquait son matérialisme et son vide spirituel. Ainsi, lorsqu'il a préparé la construction de sa villa, il l'a conçue comme une démonstration, comme une mission morale.
La façade de la maison combinant la brique et les éléments en béton exprime en quelque sorte la vie intérieure de son auteur et invite le visiteur à réfléchir sur le monde. Pour Jindřich Vybíral, c'est aussi un défi, une invitation à déchiffrer la signification que l'artiste a insufflée à son œuvre.
Cette maison est vraiment pleine de divers symboles. Déjà au premier abord, nous constatons qu'elle ne ressemble pas à une maison d'habitation ordinaire. Elle se détache d'une façon très marquante des maisons voisines. Son toit plat a été l'un des premiers toits de ce genre en Bohême et en Moravie. Si vous regardez le plan de cette construction, vous vous rendez compte qu'elle forme un fragment de cercle. Il vous sera difficile d'y trouver un angle droit, il n'y a presque pas de symétrie.
Et Jindřich Vybíral de constater que toute cette richesse de forme correspond à la richesse de signification symbolique.
Le motif du champ de blé est un élément important de la signification symbolique de cette construction. František Bílek a utilisé le champ de blé comme la parabole de la vie humaine et le motif du travail sur ce champ comme la parabole de la condition humaine.
Le motif du champ de blé se reflète non seulement dans les éléments extérieurs comme les colonnes en forme d'épi ou de gerbes de blé. Le plan de la maison elle-même donne l'impression d'onduler et de vibrer comme un champ de blé. Le visiteur de la villa, qui s'ouvre de nouveau au public pour avoir donc tout cela, et aussi une importante collection de statues de František Bílek réunies dans son ancien atelier, et une exposition sur sa vie et son œuvre installée sous les combles de sa maison. Les championnats du monde de basket féminin ont commencé jeudi en République tchèque dans le groupe D. Les joueuses tchèques ont réussi leur entrée dans la compétition en s'imposant face à la sélection argentine sur le score de 67 à 53. Alexis Rosenzweig.
Dámy a pánové, národní hymna České republiky.
L'hymne tchèque a retenti pour la première fois de ce mondial jeudi pour le premier match de la sélection nationale qui, vous le savez, a l'avantage de jouer à domicile. Beaucoup de nervosité chez les joueuses tchèques, mais finalement une rencontre bien menée qui leur a permis de se mettre en confiance avant la suite de la compétition. Après une bonne entame de match, les Tchèques ont mené rapidement de 19 points en face de leurs adversaires argentines, mais un passage à vide a permis aux Sud-Américaines de revenir à 4 points seulement. La très bonne prestation de Jana Vesela a cependant permis à l'équipe de se réorganiser et de reprendre le large. Arrivée il y a quelques jours seulement des États-Unis, Jana Vesela a su mettre à profit son expérience acquise dans la prestigieuse WNBA au sein de l'équipe des Seattle Storms. On l'écoute.
Je dois dire que ça a été un peu difficile d'arriver juste avant le début de la compétition. Je ne suis pas très reposée, mais de jouer ici devant notre public m'a redonné de l'énergie. C'était super. Dans la Ligue nord-américaine, le jeu est plus physique, plus agressif. Du coup, ici, j'arrive à prendre pas mal de rebonds assez facilement.
Et après cette victoire, c'est le soulagement du côté de l'entraîneur de la sélection tchèque, Lubor Blažek.
Ce n'était résolument pas un match facile. Cela n'a ressemblé en rien à nos matchs de préparation. Il y avait beaucoup de nervosité en ce début de compétition, mais je suis content qu'on s'en soit bien sorti. On voulait faire jouer plus de joueuses, mais certaines d'entre elles étaient vraiment très nerveuses. Pour nous, c'est une victoire très importante et on va pouvoir entamer le match contre la Russie avec davantage de sérénité.
Et cette rencontre difficile contre les Russes qui font figure de favoris dans ce groupe D après avoir largement dominé le Japon, ce sera dès ce vendredi. Dans les autres groupes, les principales prétendantes au titre que sont les États-Unis et l'Australie se sont facilement imposées, respectivement devant la Grèce et devant le Canada. La France l'a également emporté aisément contre les Sénégalaises, tandis que le Mali a essuyé une sévère défaite face aux Espagnols. On connaîtra déjà les qualifiés pour les huitièmes de finale ce week-end.
Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque et on termine avec la rubrique économique. Aujourd'hui, une rencontre avec Gaël Dandelot qui vient d'ouvrir un magasin de fromage français à Prague.
Économie, commerce.
Gaël Dandelot, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous connaît déjà, on vous a déjà entendu sur les ondes de Radio Prague à l'occasion de marchés dans le centre de ville de Prague ou dans les centres commerciaux. Vous vendez du fromage français. Aujourd'hui, on est à l'Etna, dans le magasin qui s'appelle Francir, qui est le nom de la société. Pour ceux qui ont quelques notions de tchèque, on comprend le jeu de mots entre le France ou français et fromage, cire en tchèque. Vous vendez du fromage français ici en République tchèque. Je vais vous demander un petit peu, pour commencer, de nous raconter comment vous est venue cette idée.
L'idée a mûri pendant un certain temps, puisque j'étais à Prague depuis quelques années, quand, comme beaucoup de Français, j'étais en recherche de produits un peu français, et notamment des fromages. Donc je faisais, comme certains, donc, ramener du fromage quand j'allais en France, des quantités assez importantes que des fois j'arrivais pas à finir. Et puis petit à petit est venue l'idée, en fait, pourquoi pas de lancer ça, puisque ça manquait en République tchèque, donc de lancer un commerce de fromage. Et puis l'idée s'est concrétisée déjà il y a un an par Internet, et puis actuellement en deuxième phase, donc avec un magasin.
Effectivement, vous avez déjà vu, on avait un petit peu parlé de la page internet, vous prenez des commandes et vous livrez. Comment ça marche ce système? Est-ce que vous continuez à faire ça malgré l'ouverture du magasin?
Alors oui, le système marchait avec un certain nombre de gens justement qui étaient en recherche de produits très spécifiques, qui savaient ce qu'ils voulaient. L'idée était donc de proposer ces produits-là à des prix quand même un peu plus intéressants que ce qu'on trouve sur le marché, et donc de les livrer pour des quantités quand même importante en livraison. J'ai trouvé une certaine clientèle qui est pas prête à abandonner ces systèmes-là. Donc maintenant, avec le magasin, je vais faire en sorte de regrouper les commandes pour pouvoir livrer une fois par semaine. C'est-à-dire que tous les mercredis, je parcours Prague pour livrer et honorer différentes commandes qu'il peut y avoir.
Alors, on est à l'Etna, dans la rue
Schmeralova.
Schmeralova, merci. Le magasin vient d'ouvrir il y a à peu près un mois. Est-ce que c'est compliqué d'ouvrir un magasin ici en République tchèque, de trouver un local, de remplir toutes les formalités administratives?
Les formalités administratives, c'était surtout vis-à-vis des services d'hygiène. Il fallait faire homologuer ce magasin, qui était déjà un magasin avant, mais de vêtements. Et ensuite, il a fallu le faire homologuer comme magasin pour vendre la nourriture. Donc il y avait tout ce projet à monter avec un certain nombre de contraintes à respecter pour pouvoir faire de la découpe de produits, en fait. C'était ça la principale difficulté. Si pour des produits emballés, il y a moins de contraintes, mais pour pouvoir faire de la découpe, il faut pouvoir répondre à un certain nombre de contraintes. Le local, je l'ai trouvé par hasard et puis de façon assez chanceuse. C'est un endroit qui me plaisait bien, que je connaissais bien, et donc me disait que c'était peut-être une opportunité aussi de pouvoir faire quelque chose à cet endroit-là.
Les fromages que vous recevez, d'où viennent-ils ? Est-ce que vous avez plusieurs fournisseurs ? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les fromages en France ? Est-ce qu'on vous les envoie ?
Je ne vais pas les chercher en France parce que ça serait trop fatigant, étant donné que j'ai besoin de recevoir des produits toutes les deux semaines. Donc faire le voyage en France toutes les deux semaines, ça me paraît un peu trop compliqué. Donc je suis en contact avec un exportateur qui m'envoie les produits par camion frigorifique. Donc je les reçois directement sur place. C'est plus pratique. Pour l'instant, je suis en contact seulement avec cet exportateur, mais on peut imaginer tout un tas d'autres possibilités, notamment peut-être, pourquoi pas, être en contact avec certains producteurs pour des opérations bien précises, parce que le producteur peut me fournir un type ou deux de fromage, et donc il faut pouvoir écouler cette marchandise-là assez rapidement. Donc pour des opérations bien précises, ça peut être intéressant et ça peut permettre aussi d'offrir quelque chose de nouveau.
On imagine que parmi la clientèle, il y a beaucoup de Français expatriés qui vivent ici à Prague ou en République tchèque. Est-ce que c'est bien le cas? Et puis, est-ce que vous avez aussi beaucoup de clients tchèques?
L'an dernier, quand je proposais de la vente uniquement par correspondance, j'avais une part très importante de clientèle française, parce que c'était une clientèle qui connaissait les produits, qui savait exactement ce qu'elle voulait, puis qui pouvait percevoir que les prix n'étaient pas forcément excessifs. Et donc c'était plus facile de communiquer sur cette clientèle-là, d'autant plus que le bouche-à-oreille finalement entre Français marchait relativement bien. Maintenant, avec le magasin, puis déjà avec les marchés, il y a de plus en plus une clientèle de plus en plus tchèque qui vient aussi et qui vient se fournir et puis découvrir un certain nombre de choses, puisque pour l'instant, à part quelques exceptions, les gens ne connaissent pas, mais petit à petit découvrent.
Alors, comment ça passe le fromage français qui a la réputation de pas sentir très bon auprès des Tchèques? Est-ce que les Tchèques apprécient le fromage français, et qu'est-ce qu'il faut faire pour leur faire découvrir certains fromages qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, puisque dans les magasins on peut quand même voir un peu des camemberts ou des fromages très connus, mais pour leur faire découvrir d'autres fromages?
Ça passe par la dégustation. Souvent, il faut pouvoir faire goûter aux gens, qu'ils puissent sentir qu'il y a réellement une différence entre le produit qu'on peut acheter ici ou le produit qu'on peut acheter dans un supermarché ou le produit tchèque, effectivement, qui est industriel. Donc, souvent, la dégustation me permet de comprendre un peu mieux et puis de voir deux, trois choses, en fait, voir qu'il peut y avoir des différences. Quand on va dans un type de fromage, on peut voir qu'il y a énormément de nuances qui sont possibles, en allant de choses qui sont plus douces, qui ne sentent pas forcément très fort, jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus corsées, piquantes et qui peuvent avoir un goût assez particulier. Donc je dirais qu'il y en a pour tous les goûts. Tous les fromages français ne sentent pas mauvais ou alors ne sentent pas fort.
Est-ce que vous savez comment les Tchèques consomment le fromage? Parce que en France, on mange souvent le fromage après le plat principal d'un repas. Ici, c'est pas une habitude qui est normale. On mange plutôt du fromage au petit déjeuner, des tranches de fromage à pâte dure ou le soir au dîner. Alors comment intégrer le fromage français dans les modes de consommation tchèques?
Ça, c'est difficile de savoir comment le fromage est et à quel moment de la journée il est consommé. Je donne pas forcément de conseils comme ça à mes clients, mais ça peut m'arriver de proposer un plateau de fromage français, c'est-à-dire qu'avec des choses très différentes, où il y a un certain équilibre, on va trouver des différents types de fromage. Et on va trouver différentes saveurs pour une somme donnée. Les gens peuvent me dire, par exemple, vous voulez un plateau de fromage pour 500 couronnes, 1000 couronnes, etc. Et je peux proposer quelque chose avec un ordre de dégustation, puisque c'est comme pour le vin, en fait, le fromage ne peut pas souffrir d'un ordre un peu chaotique de dégustation. Il faut vraiment absolument consommer les fromages les plus doux pour arriver à quelque chose de plus fort. Donc voilà, pouvoir donner un conseil dans la dégustation, comme c'est fait dans un restaurant en France, et pouvoir aussi donner un conseil sur le plateau de fromage pour éventuellement aussi pour qu'il y ait différentes formes, différentes couleurs, qu'il soit assez agréable à regarder.
Le magasin a ouvert il y a à peu près un mois. Est-ce que vous avez des clients? Est-ce que c'est difficile à acquérir une clientèle?
Alors, les débuts sont, je dirais, encourageants. Enfin, pour l'instant, c'est difficile de savoir exactement où en est le magasin. On peut espérer quand même qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être intéressés. Ça va prendre le temps d'être connu dans le quartier. Mais pour les débuts, je pense que c'est pas forcément mauvais. Ça aurait pu certainement être pire.
Qu'en est-il de la concurrence? Il y a une chaîne de fromage, de fromagerie qui s'appelle Cheesy, qui est installée aussi dans plusieurs quartiers de Prague. Est-ce que ce sont vos concurrents ou comment faire avec ces concurrents-là ou d'autres?
Alors localement, ils sont concurrents puisqu'il y a un magasin Cheesy à peu près à 100 mètres de celui-là. Mais sur le type de produit et sur l'offre et puis sur la variété que l'on peut trouver, on est quand même assez différent. C'est-à-dire que Cheesy propose principalement du fromage hollandais à pâte dure. Mais je ne propose pas du tout de fromage hollandais, mais français, éventuellement suisse et italien. Mais pour moi, ça va rester sur cette gamme-là. Je dirais c'est plus sur l'offre qui va y avoir une différence et puis peut-être aussi sur la qualité des produits.
La mission de Radio Prague en langue française est maintenant terminée. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.